Vous écoutez On lit pour vous.
Isabelle Giard, en été, ça roule partout au Québec. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 163, été 2024. À regarder Isabelle Giard en road trip dans les cantons de l'Est sur sa chaîne YouTube « Ça roule », on n'a qu'une envie, c'est de partir avec elle et son conjoint pour les suivre dans leurs aventures. Le soleil, la beauté et le calme de Bromont, la planche à pagaie, la promenade du ponton de North Hatley, le cercle de pierre de Stanstead, Sherbrooke, Drummondville. Isabelle aime à la fois jouer les guides touristiques enthousiastes et aussi offrir des commentaires sur les installations accessibles qu'elle a testées. Elle explore toutes les régions du Québec, il y a tant à découvrir. C'est également le cas pour les hébergements, hôtels, chalets adaptés et campings. Dormir sur un lit de camp, même pas peur. Isabelle est en fauteuil depuis toute jeune, car elle est née avec le spina bifida. À 12 ans, elle a eu une grosse chirurgie et depuis, elle se déplace uniquement en fauteuil. Ce qui ne l'arrête pas et ne l'empêche pas d'explorer, comme elle le dit si bien dans l'introduction de sa chaîne. Quand elle était plus jeune, elle a fait partie des scouts. Cela ne lui pose donc aucun problème de dormir sur un lit de camp lorsqu'elle fait du camping. L'idée, c'est de pouvoir effectuer ses transferts dans le lit. Nous avons essayé par essai et erreur. Mon conjoint est assez débrouillard, explique la campeuse. Isabelle et son conjoint Jean-Charles voyagent toujours en couple, ce qui rend les choses plus faciles, c'est certain. Isabelle a toujours de l'aide aux besoins et aussi un caméraman. Jean-Charles est celui qui tient la caméra et filme Isabelle dans ses aventures. C'est en camping, il y a 4 ans, que le couple a commencé à se filmer pour la première fois avec l'idée de tester et faire découvrir les endroits accessibles. Mon conjoint filmait avec un téléphone et un trépied au début et par la suite avec un appareil Canon et une GoPro. Nous nous sommes améliorés au fur et à mesure. Nous prévoyons les endroits où nous allons filmer. Nous avons une procédure, une feuille de route. On aime ça tous les deux, raconte Isabelle, les yeux rieurs. Isabelle a d'ailleurs toujours le sourire aux lèvres et le rire facile. Elle aime aller à la rencontre des autres et enregistre également de nombreuses entrevues sur différentes thématiques avec des personnes en situation de handicap ou non. J'aime discuter avec les gens et qu'ils me parlent de leur parcours. Le but est de partager, d'instruire et de sensibiliser à la réalité du handicap les personnes qui n'en ont pas. Une multitude d'activités à essayer. L'été est la saison préférée d'Isabelle pour les différentes activités qu'elle peut pratiquer. Elle a récemment découvert la joëlette qui lui a offert de belles randonnées à vélo, assise, tout en profitant du plein air. Elle s'est rendue dans l'ouest de l'île de Montréal et au Cap Saint-Jacques, dans un parc agrémenté de quelques sections boisées. C'est le fun aussi parce que c'est en groupe. C'est une belle activité pour profiter de la nature, se réjouit Isabelle. Curieuse de nature, Isabelle a aussi essayé la voile adaptée à Pointe-Claire, voici quelques années, avec ACVA, AQVA. Elle part aussi en camping qu'elle réserve dès le printemps, dans des chalets accessibles qui offrent des possibilités de promenade aux alentours. Elle va aussi tester cette année la plage de Saint-Zotique, qui vient de se munir d'un tapis pour se rendre jusqu'à l'eau. Elle va aussi souvent à Oka, qui possède un chemin en bois accessible le long de la plage. « Mais je n'ai pas voyagé à l'étranger pour le moment. Ça reste un rêve », précise-t-elle. Ce ne sera pas encore au programme cette année, car Isabelle va passer une bonne partie de l'été à déménager. Une tâche énergivore, même si elle part à seulement 10 minutes de son ancien logement à Vaudreuil-Dorion. Le couple sera accompagné de son nouveau perroquet, Fonzie, très curieux, très joueur, qui aime se promener sur le fauteuil d'Isabelle et la suivre partout dans la maison. Et peut-être un voyage dans le futur, pourquoi pas? Sortir de sa zone de confort et déconnecter de la ville. Pour Isabelle, l'important est de suivre ses envies, d'essayer de nouvelles choses, de ne pas avoir peur d'essayer. Même si la nouveauté peut faire peur, si on n'essaie pas, on ne sait pas si on est capable. Pour elle, le partage d'expériences est important. Si une personne en voit une autre pratiquer et essayer des choses, elle peut être tentée à son tour. Nulle obligation de partir loin de chez soi. Il y a tellement d'endroits accessibles et de plus en plus dans les différentes régions du Québec. Il faut y aller à son rythme, sortir de sa zone de confort tout en se sentant à l'aise, s'amuser, en profiter, déconnecter de la ville, s'éloigner un peu. L'été, c'est tellement plus facile de connecter avec les gens autour de soi, invite Isabelle. Le plus beau souvenir d'été d'Isabelle, les sorties en planche à pagaie. Depuis la première fois qu'elle est montée sur une planche à pagaie, c'est toujours la même sensation qu'Isabelle ressent. Une joyeuse excitation, un sentiment de légèreté, une impression de flotter sur l'eau, une sensation immense de liberté. Sur l'eau, elle oublie tout et elle s'évade. Je n'imaginais pas que c'était possible avant d'être sur l'eau, sur une planche, en fauteuil, de sentir le vent comme ça. Ça paraissait si complexe de pouvoir être sur l'eau, bien installée. Il a tous les ancrages, j'ai été bien attachée et je me suis mise à pagailler. Je ne savais pas à quel point c'était le fun. S'exclame Isabelle, encore ravie à l'évocation du souvenir. Elle se souvient qu'au début, un instructeur est monté avec elle, en arrière, après qu'elle ait descendu sur la rampe depuis le quai. Et il y avait aussi une personne pour l'accompagner. Isabelle pensait, la première fois, que la planche ne serait pas stable, mais les flotteurs installés tout autour l'empêchent de chavirer. Puis, les fois suivantes, elle a embarqué seule sur la planche. « Je ne suis jamais tombée à l'eau », rit-elle. Un bon exercice pour les bras. Il lui a d'abord fallu apprendre à coordonner la pagaie. Avec l'intensité du vent, cela lui demandait de la force dans les bras. C'est aussi un bon exercice qui lui permet de travailler le haut du corps et ce n'est pas trop exigeant à son goût. En général, Isabelle part pour la demi-journée en faisant un pique-nique sur place et elle se promène là-bas au parc de la Salle. Elle ne manquerait cette activité estivale pour rien au monde. Une fois ou deux par année, c'est certain. C'était Isabelle Giard en été, ça roule partout au Québec. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 163, été 2024.
De nombreux fabricants canadiens envisage de s'implanter aux États-Unis. Un texte de Daniel Johnson de la presse canadienne paru le 7 juillet 2026 dans Le Devoir. Les tensions commerciales poussent certains fabricants canadiens à décider de délocaliser leur production au sud de la frontière ou de reporter leurs investissements en capital, selon une nouvelle étude. KPMG Canada a indiqué début juillet 2026 que 42% des entreprises manufacturières canadiennes ont indiqué avoir déjà délocalisé leur production aux États-Unis ou envisagé de le faire. Parmi celles qui envisagent une délocalisation, 77% prévoient d'effectuer cette transition au cours des deux prochaines années. Anamika Gadia, associée et responsable nationale des marchés industriels chez KPMG Canada, a mentionné que les fabricants nationaux avaient fait preuve de résilience au cours de l'année écoulée, mais cette résilience a certainement ses limites. Notre enquête montre clairement que, si les entreprises ont pris des décisions à court terme pour s'adapter aux droits de douane et à l'incertitude commerciale, elles s'orientent désormais vers des décisions d'investissement à plus long terme, a-t-elle souligné lors d'un entretien. En d'autres termes, elles n'attendent pas de voir comment la situation commerciale va évoluer, notamment en ce qui concerne les négociations sur la CEUM, et elles s'orientent vers des décisions d'investissement à plus long terme, y compris celles qui les amènent à délocaliser leur production aux États-Unis, a-t-elle précisé. Les résultats de l'enquête ont été recueillis auprès de chefs d'entreprise, de cadres et de décideurs de 275 entreprises manufacturières canadiennes entre le 11 et le 29 mai à l'aide du panel de recherche sur les entreprises d'Angus Reid. Le représentant américain au commerce, Jameson Greer, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis ne renouvelleraient pas l'accord Canada-États-Unis-Mexique sous sa forme actuelle, mais que l'accord commercial resterait en vigueur tant que les négociations se poursuivraient. Cette décision déclenche un processus de révision annuelle renouvelable pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans, à l'issue de laquelle l'accord expirera si aucune prolongation n'est convenue. La CEOM reste en vigueur à moins qu'un des pays partenaires ne notifie son retrait avec un préavis de 6 mois. Cet accord commercial a protégé le Canada d'une grande partie des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, mais le pays subit néanmoins l'impact de droits de douane sectoriels distincts, visant des industries telles que l'acier, l'aluminium, l'automobile et la fabrication de meubles. Madame Gadia a toutefois précisé que les enjeux dépassaient la simple situation commerciale, le Canada devant créer un environnement concurrentiel permettant aux fabricants de se développer. Cette enquête montre clairement que les fabricants ont besoin de se sentir plus en confiance et de voir le gouvernement prendre des mesures concrètes pour pouvoir continuer à produire, à investir et à se développer au Canada, a-t-elle avancé. Parmi les facteurs clés cités par les entreprises, on trouve une plus grande certitude concernant les barrières commerciales interprovinciales. Elles ont besoin de plus de certitudes en matière de droits de douane. Elles souhaitent une baisse de l'impôt sur les sociétés, elles veulent un meilleur accès au capital et une énergie moins chère, a-t-elle fait valoir. L'enquête a également révélé que 57% des entreprises manufacturières ont suspendu, réduit ou annulé des projets d'investissement en capital. 36% ont réduit leurs investissements, 12% ont suspendu leurs projets et 9% ont annulé les dépenses prévues. Madame Gadia a indiqué que les retards dans les investissements d'équipement pourraient être le signe que ces fonds d'investissement vont être réaffectés aux États-Unis. L'enquête a montré que 80% des industriels prévoyaient de conserver leur siège social au Canada, mais que 11% envisageaient de transférer leur siège social aux États-Unis au cours des 5 prochaines années. Une perte de cette ampleur pourrait avoir un impact significatif sur le produit intérieur brut du Canada, d'après KPMG Canada. Selon les chiffres du gouvernement fédéral, le secteur manufacturier représente environ 10% du PIB total du Canada. C'était « De nombreux fabricants canadiens envisagent de s'implanter aux États-Unis », un texte de Daniel Johnson de la presse canadienne, paru le 7 juillet 2026 dans Le Devoir.
Le masculinisme n'est pas une mode, mais un danger. Un texte de Denis Daniel Boulet, paru le 22 juillet 2026 dans Fugue. Il est étrange de voir à quel point certains mots peuvent être vidés de leur sens. À force d'être employés à tort et à travers, ils finissent par perdre leur portée. C'est le cas du masculinisme. Porter une barbe soigneusement taillée, fréquenter un gym ou arborer une coupe de cheveux impeccable fait-il automatiquement de quelqu'un un masculiniste ? Évidemment non. Certes, ces choix esthétiques peuvent renvoyer à une certaine mise en scène de la virilité. Mais s'arrêter à cette apparence revient à confondre un style avec une idéologie. Le masculinisme ne se lit pas dans une barbe, des biceps ou une paire de bottes. Il est avant tout un système de pensée. L'histoire récente des hommes gays montre d'ailleurs que la réappropriation des codes de la virilité répond à une toute autre logique. À partir des années 1970, avec l'émergence des mouvements de libération homosexuelle, les descentes policières dans les bars gays et la violence dont étaient victimes les communautés LGBTQ+, les homosexuels étaient largement perçus comme faibles, efféminés, incapables de se défendre. Cette image profondément ancrée dans la société, était parfois intériorisée par les premiers concernés. En réaction, une autre représentation de soi apparaît, d'abord aux États-Unis, puis ailleurs. Les figures du cow-boy, du militaire, de l'ouvrier et du motard envahissent les magazines gays et la culture populaire. La moustache, la barbe et les corps plus robustes deviennent des symboles d'affirmation. Les village people incarnent parfaitement ce renversement des codes. Il ne s'agissait pas de revendiquer la domination masculine, mais de refuser l'image du sous-homme que la société leur imposait. Cette réappropriation des signes de virilité ne signifiait nullement une adhésion au masculinisme. Une deuxième étape survient avec l'épidémie de sida. La maladie, puis certains des premiers traitements, pouvaient transformer les corps et rendre visible la séropositivité. Le sarcome de Kaposi, notamment, laissait des lésions cutanées difficiles à dissimuler. Beaucoup d'hommes gays ont alors accordé une importance particulière à leur apparence physique. Le corps musclé, tonique et souvent épilé devenait une façon de projeter une image de santé et d'échapper aux regards soupçonneux. Le poil, redevenu à la mode quelques années plus tôt, disparaissait parfois parce qu'il pouvait masquer certaines lésions. Aujourd'hui, chacun compose avec ses codes selon ses goûts. Avec ou sans barbe, avec ou sans pilosité, musclé ou non, les modèles se sont multipliés. Le gym demeure un lieu important pour plusieurs, pas juste pour l'apparence, mais aussi pour la santé, mais certainement pas pour tous. Les communautés gays n'ont d'ailleurs jamais été homogènes. Le mouvement Beer, par exemple, revendique des corps plus imposants, des ventres assumés, des barbes fournies et une masculinité qui échappe au canon du corps sculpté. Plus largement, une véritable liberté de présentation de soi s'est imposée. Certains jouent avec les codes masculins, d'autres les mélangent avec ceux traditionnellement associés au féminin. J'ai un ami dont l'apparence correspond en tout point à l'archétype de la virilité, barbe, moustache et carrure imposante, mais qui porte volontiers une mini-jupe, des talons hauts et des boucles d'oreilles dans la vie de tous les jours, et pas seulement lors d'une soirée dans le village. L'habit ne fait décidément pas le moine. Même les signes les plus ostensibles de la virilité ne disent rien des convictions profondes d'une personne. Le masculinisme, lui, est ailleurs. Il s'agit d'une idéologie réactionnaire, antiféministe et souvent hostile aux personnes LGBTQ+. Elle défend la domination masculine, réclame un retour au rôle traditionnel des sexes et présente les hommes comme les véritables victimes d'une société qui serait désormais gouvernée par les femmes ou les féministes. Ces discours prospèrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils alimentent une rhétorique de haine envers les femmes et les minorités sexuelles. Certains auteurs de féminicides ou de crimes haineux s'en réclament ouvertement. Le meurtre survenu à Côte-des-Neiges en juin dernier, dont les enquêteurs ont évoqué une possible motivation liée au masculinisme, en est un tragique rappel. Réduire le masculinisme à une question de barbe ou de muscles revient donc à passer complètement à côté de sa véritable nature. Une question demeure pourtant. Comment expliquer que, malgré les campagnes de sensibilisation, les maisons d'hébergement, les organismes communautaires, le durcissement des peines et les nombreuses politiques publiques, tant d'hommes, parfois très jeunes, continuent de se sentir légitimés à agresser leur conjointe ou à s'en prendre à un couple queer dont le seul tort est d'exister? Les organismes de défense des droits de la personne, tout comme le gouvernement du Canada, constatent une recrudescence des discours haineux et un recul préoccupant du sentiment de sécurité pour plusieurs groupes. Les projets de loi visant à renforcer les sanctions contre les féminicides et les crimes motivés par la haine témoignent de cette inquiétude. Il ne faut pas oublier non plus que, jusqu'à une époque relativement récente, les idées aujourd'hui portées par les masculinistes étaient largement partagées dans la société. Elles étaient simplement moins visibles parce qu'elles étaient rarement contestées. Peut-on renverser cette tendance? Sans doute. Par l'éducation, par les familles, par les lois, mais aussi par une culture qui valorise l'égalité plutôt que la domination. Le défi demeure immense tant que des dirigeants politiques continuent d'être célébrés pour leurs démonstrations de force, militaires, économiques ou physiques, et servent de modèle à ceux qui associent encore la masculinité à la puissance et à la domination. Peut-être, au fond, que les hommes gays ont déjà apporté une réponse. En se réappropriant les attributs de la virilité sans reprendre les valeurs du masculinisme, ils ont démontré qu'un même symbole peut raconter une toute autre histoire. À ce compte-là, les masculinistes pourraient presque porter plainte pour usurpation de leur code. C'était « Le masculinisme n'est pas une mode, mais un danger », un texte de Denis Daniel Boulay, paru le 22 juillet 2026 dans Fugue.
Le rêve d'ascension sociale remise en question. Un texte de Francis Vail, paru le 6 juillet 2026 dans La Presse. Quand on veut, on peut. Cette maxime reflète bien l'esprit de l'American Dream, selon lequel chacun peut devenir riche aux États-Unis à partir de rien, grâce à son travail et à sa détermination. Mais ce rêve de prospérité bien présent au Canada est-il vérifiable? Jusqu'à quel point les ménages parviennent-ils à grimper dans l'échelle de revenus et à changer de classe sociale, particulièrement les plus pauvres? Les économistes Mary Conley et Catherine Haake de l'UQAM se sont penchés sur cette question de la mobilité sociale avec des constats fort intéressants. Pour y parvenir, elles ont notamment comparé les revenus à l'âge adulte des enfants nés entre 1963 et 1985 avec ceux de leurs parents. Les données de plus de 6 millions de Canadiens tirées de Statistique Canada ont été analysées. Les revenus à l'âge adulte sont ceux gagnés entre l'âge de 27 et 31 ans, entre autres, donc jusqu'en 2016 pour les enfants nés en 1985. Je vous parle plus loin des enfants nés plus tard et qui ont 30 ans en 2026, aux prises avec la hausse du prix des logements. Plus difficile pour les pauvres. Premier constat de l'étude. La mobilité sociale a régressé pour les particuliers du premier quintile de revenus au Canada, les plus pauvres. Dit autrement, la probabilité pour les enfants moins nantis de rester dans ce quintile de faibles revenus de leurs parents a augmenté au fil des années. Cette stagnation dans le bas de l'échelle est passée de 27,5% pour les enfants nés au début des années 1960 à 33,1% pour ceux nés au début des années 1980 et qui ont eu 30 ans dans les années 2010. Cette trappe de la pauvreté a augmenté progressivement au fil des 22 ans de l'étude. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Québec ne se démarque pas particulièrement favorablement à cet égard. La province est même légèrement au-dessus de la moyenne canadienne, avec une probabilité de rester dans le premier quintile qui s'élève à 33,3% pour les enfants nés au début des années 1980. Évidemment, il ressort de ces données qu'à l'inverse, la probabilité de sortir de la trappe de la pauvreté est quand même grande. Si le tiers y reste, c'est donc que les deux tiers en sortent, passant au quintile supérieur. Le corollaire, cependant, c'est que certains particuliers qui ont vécu dans les quatre quintiles supérieurs sous leurs parents tombent dans le quintile inférieur, au début de la trentaine, remplaçant ceux qui en sortent. La mobilité sociale va dans un sens comme dans l'autre. Et qui donc tombe dans ce premier quintile? Selon l'étude, la répartition des remplaçants entre les quatre quintiles supérieurs n'a pas beaucoup bougé dans le temps. Ainsi, vers l'âge de 30 ans, les enfants nés en 1985 sous des parents du cinquième quintile, les mieux nantis, sont environ 12,1% à tomber dans le premier quintile, contre 14% au début des années 1960. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont ceux du deuxième quintile qui tombent en plus grande proportion dans le premier quintile de revenus, 21,8%, mais cette proportion est semblable à celle de 1963, 21,9%. Cuillère d'argent dans la bouche ou pas? Cette question de la mobilité sociale est centrale dans notre système économique. Il va de soi que les gens du cinquième quintile, en raison de leur instruction souvent plus grande, contribuent à maintenir leurs enfants dans des strates de revenus plus élevées. En même temps, notre système socio-économique doit idéalement permettre qu'il y ait une mobilité entre les rangs, que grâce à la liberté, au travail et à l'accès aux services publics, ceux qui sont moins nantis puissent accéder au quintile supérieur. Et inversement pour les enfants nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Justement, les chercheuses ont pu mesurer ce niveau de mobilité. Pour constater que les revenus des parents sont un grand prédicteur du rang moyen futur des enfants, quoique pas le seul, et que ce prédicteur, du moins ce lien statistique, est bien plus grand aux États-Unis qu'au Canada, bref, que le rêve américain est moins accessible aux États-Unis qu'au Canada, paradoxalement. Sous forme de graphique visuellement, ça vaut mille mots. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'une courbe horizontale, donc plate, signifierait que la mobilité sociale est parfaite et aucunement liée aux revenus des parents. À l'inverse, une courbe à 45 degrés indiquerait que le rang centile de revenus des enfants devenus adultes est parfaitement lié à celui des parents. Bref, plus la courbe est plate, plus la mobilité intergénérationnelle entre les rangs de revenus est grande. Ce n'est pas tout. En mettant la loupe sur le phénomène, les chercheuses ont fait un autre constat étonnant, tout récemment. La situation des Autochtones explique la presque totalité des incohérences de la courbe canadienne pour les parents qui sont dans le quintile de revenus inférieurs. En retranchant les Autochtones de la base de données, la courbe canadienne redevient droite même chez les faibles revenus, mais tout de même encore bien moins pentue que celle des États-Unis. Et une courbe propre aux Autochtones illustre le fossé de revenus avec les non-Autochtones, en plus d'un angle plus abrupt se traduisant par une mobilité intergénérationnelle deux fois plus faible que chez les non-Autochtones. En somme, la mobilité sociale a diminué pour les plus pauvres au Canada sous la génération X, selon l'étude, et les Autochtones sont particulièrement frappés. La tendance changera-t-elle sous les millénarios et la génération Z? C'est bien possible, selon moi. D'abord parce qu'au Québec, de nombreuses familles ont bénéficié de la politique familiale de Pauline Marois en 1998 avec les garderies à contribution réduite. Ensuite, parce que le taux de pauvreté a diminué après l'instauration de l'allocation canadienne pour enfants en 2016, sous le gouvernement Trudeau. En revanche, le boom du prix des logements et des maisons depuis 5 ans pourrait brouiller les cartes. Certes, le phénomène ne change pas le niveau de revenus de travail, mais pourrait jouer sur le patrimoine des moins nantis. Les parents pauvres ne peuvent contribuer à la mise de fonds d'une maison, et éventuellement sur leur capacité à changer de classe sociale. C'était « Le rêve d'ascension sociale remise en question », un texte de Francis Vaille paru le 6 juillet 2026 dans La Presse.